À Nouveau Info, c'est important pour nous d'aller au-delà de l'info. Et ça commence à 17h par un regard en profondeur de l'actualité avec Marie-Christine Bergeron. À 22h, on ajoute du mordant à votre bulletin d'information. Les débatteurs se joignent à Michel Bérère pour analyser, commenter et débattre en direct des sujets de nos reportages. Et à 22h30, on fait place au grand débat de la journée avec les débatteurs de Nouveau. Faites comme nous. Allez au-delà de l'info sur Nouveau et Nouveau.info.
Bonjour tout le monde, bienvenue à cette présentation hebdomadaire de notre balado-diffusion sur la glace édition du lundi 11 avril. Lentement mais sûrement, le printemps s'installe, la beauté, soleil est là, en tout cas dans la région de Montréal. J'espère que c'est le cas chez vous aussi, où que vous soyez, qui nous écoutez via les différentes plateformes. Une émission à nouveau extrêmement chargée aujourd'hui, trois invités à vous présenter. On va s'entretenir avec l'entraîneur-chef et directeur général des Saguenay-Chicoutimi, Yannick Jean. Les Sags sont impliqués là, avec trois autres formations dans une course pour une participation aux séries éliminatoires dans la Ligue junior majeure du Québec. Il reste trois semaines au calendrier régulier, donc on va parler abondamment de ça. On va s'entretenir avec aussi un des joueurs de l'heure présentement dans la Ligue junior majeure du Québec qui s'aligne pour une des équipes de l'heure, les Remparts de Québec. On parle de Zachary Bolduc. Les choses vont vraiment bien pour le choix de première ronde des Blues de Saint-Louis. Lors du dernier repêchage, il a marqué 29 buts à ses 25 derniers matchs. Donc, on parle avec lui un petit peu plus tard. On l'a rejoint plus tôt ce matin. Les Remparts qui sont rentrés des Maritimes hier soir. Et on va s'entretenir aussi avec Raphaël Harvey-Pinard, une entrevue qui a été enregistrée au terme de la séance d'entraînement de ce matin qui a eu lieu non pas à Laval, mais à Kingston, puisque le Rocket joue ce soir. C'est rare, ça, un lundi soir. En fait, cette semaine, il devait avoir seulement trois matchs du Rocket. Ça devait être mercredi à Rochester, vendredi et samedi à Cleveland. On a rajouté deux matchs à Belleville ce soir et lundi prochain. Ça, c'est deux matchs qui n'étaient pas prévus au calendrier au départ, des matchs qui avaient été prévus, notamment celui de ce soir. Là, il aurait dû être joué le 16 février dernier. Il y avait eu une éclosion de COVID au sein du Rocket, donc on avait dû reporter ce match. Alors, on reprend ça ce soir avec les Sénateurs de Belleville. Mercredi à Rochester, vendredi et samedi à Cleveland. Et lundi prochain, on va de nouveau jouer à Belleville. Et le Rocket a décidé de faire différent un petit peu cette semaine. Pas eu beaucoup de succès face aux Sénateurs, particulièrement à Belleville cette année. Et là, on rentre dans le crunch. Évidemment, il ne reste que quoi, 10 matchs à jouer avant le début des séries éliminatoires. Le Rocket est toujours en deuxième position, est en bonne position grâce à trois victoires la semaine dernière contre Rochester, 6-2 mercredi. Vendredi également contre Rochester, 4-3 en prolongation. Et samedi après-midi, une victoire de 5-3 contre les Comets de Utica. Ça a été ça la dernière semaine du Rocket. Au moment où j'enregistre la balado-diffusion, habituellement, on reçoit le joueur de la semaine dans la Ligue américaine vers 13h le lundi. Là, il est à peu près 13h. Alors, j'imagine qu'au cours des prochaines minutes, on va avoir le joueur de la semaine. Mais et Raphaël Harvey-Pinard et Jean-Sébastien D ont connu d'excellentes semaines la semaine dernière, récoltant 7 points en 3 matchs. Alors, on va attendre là, ce qu'en a pensé le jury de la Ligue américaine. Mais je vous tiens au courant là, au cours de notre balado-diffusion, assurément. Donc, c'est ça. Pour revenir à la semaine du Rocket, ça a été quand même une excellente semaine. Il faisait suite quand même à un voyage qui s'était terminé plus difficilement avec deux défaites à Abbotsford le week-end dernier. Mais là, ça a vraiment, on a vraiment bien joué cette semaine du côté du Rocket. Le match de samedi, entre autres, les Comets de Utica avaient pris les devants 3-0 dans les 9 premières minutes de jeu. Et le Rocket n'a pas baissé les bras, a répliqué avec 3 buts avant la fin de la première période et s'est finalement sauvé avec un gain de 5-3. Là, la nouvelle, évidemment, dans le camp du Rocket, c'est le rappel par le Canadien de Caden Primeau à la suite de la blessure là, de Jake Allen subie samedi soir contre les Maple Leafs. Donc, Caden Primeau, en principe, sera l'adjoint de Samuel Montembeau ce soir. On aurait pu croire à un certain moment que Carey Price aurait pu être prêt à revenir au jeu et ça n'aurait pas forcé le Rocket, comme on dit, à rappeler Caden Primeau du club école. Mais ce n'est pas ça, finalement. Caden Primeau est avec le Canadien. Alors, le Rocket, samedi, avait octroyé un contrat d'essai à Tristan Bérubé. Ça, c'est un gars qu'on a vu au cours de la saison, mais qui n'a pas joué. Il a été en quelques matchs et été l'adjoint. Et le Rocket, ce matin, a également offert un autre contrat d'essai à Gabe Mollott-Hill, un gardien qui est originaire d'Ottawa et qui, je viens de recevoir le joueur de la semaine, là, c'est Zane McIntyre, qui est le joueur de la semaine, le gardien Zane McIntyre du Wild de l'Iowa, qui a loué seulement 5 buts en 124 lancés. Alors, ce sera pour une autre fois pour Raphaël Harvey-Pinard et Jean-Sébastien D. J'avais hâte de voir. Donc, Zane McIntyre, le joueur de la semaine dans la Ligue américaine. Ouais, le Rocket a aussi offert un contrat d'essai professionnel à Gabe Mollott-Hill. Donc, Mollott-Hill et Bérubé là, pourront être les adjoints, là, si on veut, de Kevin Poulin. C'est une situation qui était quand même un peu stressante pour le Rocket, puisque samedi, Kevin Poulin n'avait pas été en mesure d'être en uniforme pour être l'adjoint de Primo. Souffrait d'un virus qui n'était pas relié à la COVID. Mais il semble qu'il a embarqué dans l'autobus hier et il semble que ce sera lui qui sera d'office ce soir contre les sénateurs de Belleville. Et là, on verra la suite des choses cette semaine. Si Caden Primo, advenant un retour de Carey Price, puisse aller rejoindre l'équipe à Rochester mercredi ou à Cleveland le week-end prochain, ça reste à voir. Sinon, ben, il y aura beaucoup de travail pour Kevin Poulin. On espère qu'il va continuer sur sa bonne lancée, car Kevin Poulin, honnêtement, connaît une superbe saison. Il est quatrième au niveau de la moyenne de buts alloués dans la Ligue américaine cette année. Il a vraiment fait le travail exceptionnel qu'on attend d'un second à Laval. Et Kevin Poulin, donc, qui est un joueur extrêmement important dans les succès que le Rocket a connus cette année. Donc, je vous en parlais, le Rocket va jouer ce soir à Belleville, mercredi à Rochester. Et ce matin, au terme de la séance d'entraînement à Kingston, parce que le Rocket a décidé de faire ça différemment, d'aller s'établir à Kingston pour l'entraînement ce matin. Va aller jouer le match à Belleville, c'est à peu près à 45 minutes plus loin. Il va revenir coucher, va revenir dormir à Kingston pour s'en aller vers les États-Unis, demain vers les Mille Îles du côté de Rochester. Alors, quelque part, ça coupe le voyage un petit peu et ça change, ça fait différent un petit peu. Et les joueurs aiment toujours ça quand on fait différent. On l'a vu en passant vendredi avec les matchs, les chandails utilisés, là, les chandails vintage, comme on dit, qui étaient très beaux et qu'on a mis en vente aux enchères. Donc, voici cet entretien avec Raphaël Harvey-Pinard, qui n'est pas le joueur de la semaine dans la Ligue américaine, mais qui a connu toute une semaine avec le Rocket.
Raphaël, le Rocket amorce ce soir 5 matchs en 8 jours là, sur les patinoires adverses. Un match contre Belleville, ce n'est pas un endroit où vous avez eu de la facilité cette année. Comment tu vois la semaine qui s'en vient? Hein?
Mais ça va être une semaine qui va demander beaucoup d'énergie. Je pense qu'on va avoir besoin de l'effort de tout le monde. Il va falloir que tout le monde donne son 100%. Je pense que c'est une autre affaire qu'il va falloir faire. Je pense que les jeux 5 vont vraiment être importants là, avec 5 games en 8 jours. La fatigue peut s'installer assez rapidement. Donc, ça va être de garder les jeux simples puis de récupérer entre les matchs de la meilleure façon possible.
Vous êtes allé chercher 6 gros points la fin de semaine, la semaine passée à la maison. Notamment ce match-là, samedi, vous avez parti tout croche, là, 3-0 en arrière après 10 minutes. Qu'est-ce qu'on retient de ça? C'est le caractère qui a sorti, quoi, ça?
Oui, vraiment, je pense que le mot utilisé, c'est caractère. À 3-0, on aurait pu, je pense, abandonner. C'est vraiment un départ difficile pour nous autres, mais je pense qu'on s'est regroupé. Il y a eu le temps d'arrêt de GF. Puis suite à ça, vraiment, on a commencé à travailler, puis on a pu regarder par en arrière, puis on a poussé tout dans la même direction pour aller chercher une victoire importante pour nous autres.
Vous savez là, que les séries sont à la porte. Là. Vous êtes en bonne position, c'est serré, mais normalement, là, vous avez votre sort entre vos mains. Vous n'avez pas besoin de vous fier aux autres. Si vous allez chercher votre part de points là, dans les matchs qui restent, ça va être correct. C'est comme ça qu'on voit la situation en ce moment. Là. C'est vous autres qui contrôlez votre destinée.
Effectivement, je pense que c'est nous autres, on y va un match à la fois, on se concentre sur nous autres. C'est sûr qu'on essaie de. On regarde un peu les résultats ailleurs dans la ligue, mais pour nous autres, c'est vraiment d'y aller. Jouer de notre façon, se concentrer sur nous autres, puis aller chercher le maximum de points en jouant de notre façon.
Vous êtes en position en ce moment où non seulement vous participeriez aux séries, mais vous auriez l'avantage de la glace en première ronde. Puis on connaît vos succès à la maison. Là. Vous êtes une des meilleures équipes de la Ligue à la maison. Fait que ça aussi, c'est une motivation là, de ne pas juste se lasser dans les 5, mais d'essayer de finir deuxième.
Oui, c'est une très grosse motivation. Écoute, nous autres, on aime ça jouer à la maison devant nos fans. On a des fans qui sont vraiment sont là pour nous autres. À chaque fois qu'on joue à la maison, il y a une belle ambiance, donc on va travailler fort pour aller chercher l'avantage à la glace. Ça peut faire une très grande différence en série. Donc, c'est sûr que, comme je l'ai dit, on va aller chercher le maximum de points pour essayer de s'assurer d'une place en série premièrement, puis avoir l'avantage à la glace en deuxième.
C'est une réalité de la Ligue américaine, mais on a vu qu'Aiden Primo qui a été rappelé là, hier, puis on ne sait pas combien de temps il va être à Montréal cette semaine. Là, c'est beaucoup relié peut-être plus à Carey Price maintenant qu'à Jake Allen. Pour vous autres, vous ne voulez pas, à l'aube de 5 matchs en 8 jours, d'avoir un de vos deux gardiens qui n'est pas là. Là, c'est sûr que Kevin Poulin fait de la grosse job, mais à un certain moment, il va peut-être falloir l'aider aussi. Là.
Oui, c'est sûr, ça va être important de bien jouer dans notre zone. C'est sûr qu'il va avoir beaucoup de temps de jeu. On sait qu'il est là pour nous autres, de faire les arrêts importants, mais ça va être important de l'aider de la meilleure façon possible également. Puis c'est la réalité du hockey, la Ligue américaine. On peut perdre un goaler comme ça, mais c'est de trouver une façon d'aller chercher des points, même si on perd des joueurs de temps en temps.
Tes succès à toi là, depuis, je dirais, le mois de décembre, ça n'avait pas parti fort en début de saison. Là, on parlait même à un certain moment la fameuse gang de la deuxième année. Puis finalement, je pense que c'est un match contre Texas au début décembre. Tu as eu un but dans un filet désert. Puis on dirait que c'est à partir de là, peut-être. Puis là, ça va vraiment bien là, depuis plusieurs matchs.
Oui, vraiment. Tout va bien en ce moment. C'est sûr que j'en parle souvent, mais la confiance, c'est tellement important au hockey. Puis au début de la saison, je pense pas que je jouais d'une manière différente. Je jouais dans la même identité. Mais ça a été un déclic, je pense, Texas, dans ce mois-là, là, vers fin novembre, début décembre. Puis c'est vraiment depuis ce temps-là que je me sens mieux avec mon bâton, plus confiance en autour du filet, je concrétise mes occasions. Puis c'est sûr, ça fait une grosse différence sur la feuille de pointage.
Et avec Jean-Sébastien D, ça a l'air à bien fonctionner aussi, là?
Oui, vraiment, on a une belle chimie, on communique bien sur la patinoire, on s'entend super bien en dehors de la glace aussi. Donc, en ce moment, on se trouve bien sur la patinoire, on a du bon temps en zone offensive, donc c'est de continuer cette façon-là ensemble.
Quand tu regardes là, les ajouts qui pourraient s'en venir avec le Canadien, tu sais, bon là, c'est sûr que Kaden est parti en haut, mais tu sais, on sait qu'éventuellement, probablement qu'Ilonen va revenir, que Schooneman va revenir. On parle de Justin Barron qui pourrait se joindre à vous aussi. Emil Heinemann qui arrive. Vous avez une équipe là, qui pourrait faire du dommage en série quand tout le monde va être là? Oui,
je suis convaincu qu'on pourrait faire un très long chemin en série. Je pense qu'on est bon à faire les positions. On a vraiment beaucoup de profondeur. Encore plus avec l'ajout de ces joueurs là, qui va s'ajouter. On va avoir une équipe vraiment complète. On va être difficile à affronter. Puis je pense qu'on a une densité de travailler avec le Rocket. Donc, en achetant ces joueurs-là, ça va juste encore plus nous aider. Puis on est prêt pour se rendre le plus loin possible.
Juste pour rappeler aux gens, là, en ce moment, vous êtes à Kingston. On a changé la routine un petit peu. C'est-tu parce que ça n'allait pas bien quand on se rendait à Belleville? Qu'est-ce qu'on a voulu faire par ça au juste, hein?
En fait, c'est une excellente question. Je pense que c'est à mi-chemin aussi. Demain, on en vient dormir ici ce soir après le match. Puis ça nous donne une heure d'avance pour la route demain aussi. Donc, c'est stratégique. Puis aussi, c'est sûr qu'on n'aime pas ça aller à Belleville. Puis on veut juste aller les battre. Aller pour les battre puis ressortir tout de suite après. Là.
Une journée ensoleillée pour aller marcher, c'est plus beau à Kingston qu'à Belleville aussi.
Ah, exactement. Mais très beau aussi.
Merci, Raphaël. Bon match ce soir. Salut, bonne semaine.
Merci beaucoup.
Bye-bye.
Bye.
Voilà. Alors voilà, c'était Raphaël Harvey-Pinard qui fonctionne à plein régime présentement pour le Rocket, qui est le meilleur pointeur du Rocket depuis le début de la saison. Lui et Jean-Sébastien D le forment un superbe 1-2 punch. Ils ont joué avec quelques ailiers différents là, depuis quelques matchs. Il y a eu Danick Martel à un certain moment, même qu'on avait tassé D du côté droit et on avait placé Cédric Paquette au centre. Parlant de Paquette, il ne devrait pas être en uniforme ce soir. Il n'a pas terminé le match de samedi. Même chose pour Gabriel Bourque, qui, lui, n'a pas terminé le match de vendredi. Les deux ont accompagné l'équipe sur la route, mais ne devraient pas jouer ce soir. Il y a beaucoup de profondeur présentement là, du côté du Rocket. La plupart des blessés à long terme sont de retour. Reste Gianni Fairbrother, là, qui ne sera pas disponible avant la mi-mai. On parle évidemment d'un retour éventuel en série. Et encore là, ce sera peut-être difficile pour lui de réintégrer l'alignement après avoir manqué plusieurs matchs. Donc, on suit le Rocket cette semaine, 5 matchs, ben 4 matchs techniquement à l'étranger, puisque le 5e de ce voyage, ce sera dans la semaine prochaine. Et on se dit que la semaine se termine le dimanche. Alors, lundi prochain, lorsqu'on enregistrera notre balado-diffusion, ben, il y aura encore un match en soirée qui aura lieu à Belleville. Et soit dit en passant, là, c'est extrêmement serré. Le classement de la section nord de la Ligue américaine, là, et pour les gens, pour que tout le monde soit sur la même page, les équipes ne jouent pas tous le même nombre de matchs. Il y a certaines équipes dans la section qui vont jouer 72 matchs. C'est le cas de Utica, de Laval, de Toronto et de Belleville. Mais dans le cas de Syracuse, Rochester et Cleveland, on va jouer 76 matchs. Alors évidemment, on ne peut pas se fier uniquement au nombre de points. Il faut y aller avec le taux d'efficacité. Au moment où on se parle, Laval est 2e, Syracuse est 3e. Donc si ça se terminait aujourd'hui, Laval jouerait une série 3-5 contre Syracuse. Utica est premier. Et aux positions 4 et 5, on a Toronto et Belleville. Alors, Toronto et Belleville s'affronteraient dans une série 2 de 3. Et le gagnant de la série 2 de 3 entre Toronto et Belleville affronterait par la suite Utica dans une série 3 de 5. Rochester, 6e, et Cleveland, 7e, seraient les deux équipes éliminées. Mais comme on dit, il reste encore 3 semaines d'activité, donc entre 7 et 10 matchs pour chacune des formations de la Division Nord d'ici la fin de la saison. On va maintenant parler de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Là aussi, il reste 3 semaines d'activité. On surveille d'un côté la course au championnat, de l'autre côté la course aux séries éliminatoires. Et mes deux prochains invités seront en mesure de parler de ça de part et d'autre. D'abord, quand on regarde le haut du classement dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, il y a une égalité là, présentement au premier rang entre les Islanders de Charlottetown et les Remparts de Québec. Les deux équipes ont 87 points. Québec a un match de plus de jouer, mais a 3 victoires de plus. Donc, on bagarre là, de part et d'autre Québec et Charlottetown pour le premier rang de la section. Sherbrooke vient au troisième rang avec 82 points. Saint-John, 80. Saint-John qui a stoppé hier à 10 la série de victoires des Remparts. Il y a Batters qui suit à 78 points, Shawinigan 76, Gatineau 75 et Rimouski 71. Donc, au moment où on se parle, ces 8 formations-là sont les leaders de la Ligue. Par contre, Rimouski n'aura pas l'avantage de la glace en première ronde. C'est plus Drummondville qui pourrait être avantagé dans une série contre Blainville-Boisbriand parce que l'association de l'Est est peut-être un peu plus puissante que l'association de l'Ouest cette année. Il y a des très, très bonnes formations dans les Maritimes, Charlottetown, Bathurst, Saint-John. Les 3 sont dans le top 5 de la Ligue présentement. Les Remparts de Québec ont enregistré une victoire samedi assez inusitée de 13-5 contre les Moussets d'Halifax. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça, de 13 buts dans un match dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Zachary Gravel, notamment, a marqué 4 buts. Et quelqu'un sur les médias sociaux m'a fait remarquer qu'il n'a même pas fait partie des 3 étoiles du match. On avait le choix, il faut le dire. Zachary Bolduc a marqué 3 buts dans ce match-là. Nathan Gaucher a récolté 5 passes. Dans la défaite, Jordan Dumais avait bien fait aussi. Incidemment, Jordan Dumais des Mooseheads est le joueur de la semaine avec 10 points en 3 matchs. Dumais est rendu à 84 points. Il n'a que 17 ans, faut-il le rappeler, avec les Mooseheads d'Halifax. C'est un espoir pour la séance de sélection de cette année. S'approche dangereusement là, du top 5 de la Ligue junior majeure du Québec. C'est une superbe saison pour Jordan Dumais des Mooseheads. Au cours de la dernière semaine également, William Dufour des Sea Dogs et Joshua Roy du Phoenix de Sherbrooke ont atteint le plateau des 100 points. Les deux sont présentement à 102 points. Là. Sherbrooke a 10 matchs à jouer au calendrier, Saint-John en a 9. Ça va être une belle lutte probablement entre les deux là, pour... le trophée Jean Béliveau. Dufour a 19 ans, Roy a 18 ans. Dufour appartient aux Islanders de New York, Roy évidemment aux Canadiens. Et le point en commun que ces deux joueurs-là ont, c'est que ce sont tous les deux des choix de 5e ronde au repêchage. Alors, c'est la preuve que ce n'est pas parce que tu n'es pas choisi dans les premières ou deuxièmes rondes que tu ne peux pas connaître de succès. Pour revenir aux Remparts de Québec, j'avais assisté au match dimanche dernier contre Sherbrooke. Une belle victoire. Les Remparts ont pris la route cette semaine. Ils ont gagné au Cap-Breton, ils ont gagné également à Halifax ce samedi avant de subir la défaite hier. L'équipe est rentrée tard hier soir à Québec et ce matin, on a fait un brin de jasette avec William Dufour, premier choix. Pardon, William Dufour, je m'excuse, Zachary Bolduc des Remparts. Je viens de parler de William Dufour. On a fait un brin de jasette avec Zachary Bolduc des Remparts de Québec ce matin. Voici cet entretien qu'on vous présente à l'instant.
Zachary, premièrement, les Remparts reviennent d'un voyage. Votre série de victoires s'est terminée hier, mais j'ai regardé de bonnes minutes de ce match-là. Vous n'avez pas joué un mauvais match, même si vous avez perdu là, contre les...
Après une rencontre qui ne s'est pas terminée comme ils le souhaitaient, Béa et Ben se retrouvent de manière inattendue à un mariage et font ce que deux adultes matures feraient pour sauver les apparences, faire semblant d'être le couple parfait. N'importe qui sauf toi. Une comédie à regarder dès maintenant sur Crave. 1975, fin de la guerre du Vietnam. Un capitaine de l'armée chargé des exilés aux États-Unis doit lutter pour ne pas révéler sa véritable identité. Espion du Parti communiste. Le sympathisant, une série originale HBO à regarder dès maintenant sur Crave.
Sea Dogs, c'était quand même 10 victoires de suite. Avant ça, vous êtes sur une superbe séquence.
Oui, exactement. On joue du bon hockey. Je pense qu'on joue vraiment en équipe. Je pense qu'on reste soudés, peu importe ce qui se présente à nous. Puis je pense que malgré le fait qu'on ait perdu hier, je pense que On s'est quand même bien battu, puis je pense qu'on peut être fiers de notre voyage dans les Maritimes.
Dimanche dernier, je suis allé à votre match contre Sherbrooke à Québec, puis après le match, je parlais avec Patrick, puis je lui posais la question, tu sais, s'il avait cru ça possible en début de saison de vous voir en première position là, avec quoi, une douzaine de matchs à jouer à ce moment-là, puis il m'a répondu très sérieusement, non, il n'est pas surpris. Si je pose la même question à toi, tu réponds quoi?
Ben, je vais répondre à la même chose. Ah. Écoute, on est une équipe qui est remplie de talent, on a de la profondeur, on a deux bons gardiens, six bons défenseurs, 12 bons attaquants. Fait que tu sais, c'est cette profondeur-là qui fait la différence dans des gros matchs. Puis, je pense que si l'attaque vient de juste un ou deux trios, c'est un peu plus facile pour l'équipe de défendre. Mais je pense que de notre côté, ça vient vraiment de tout le monde. Donc, je pense que c'est une des raisons pour qu'on a du succès dernièrement. Là,
se retrouver encore à égalité en première position avec Charlottetown, avec 3 semaines à jouer, est-ce qu'on fait tout ce qu'on peut là, pour terminer premier, tu sais, quitte à peut-être surtaxer un peu certains éléments pour tout faire, pour faire finir premier, ou si au contraire, on finira où on finira, puis ça va aller comme ça?
Bien, c'est sûr que l'objectif numéro un reste de gagner tous les matchs restants à la saison. On sait
quitte à hypothéquer certains moments des joueurs clés, quoi?
Je dirais pas, là, c'est pas vraiment dans mes mains ce genre de décision-là. C'est plus à Patrick de gérer ces situations-là. Mais je pense que Patrick il est bon pour gérer ce genre de choses-là. Puis j'ai confiance en comment il va agir dans le fond derrière le banc. Là.
On voit les séries éliminatoires approcher. Là, de votre côté, ça va être extrêmement difficile. À partir de la deuxième ronde, là, ça va être Batters, ça va être St. John. Je sais que tu vas me dire on va y prendre une par une, là, mais il reste que beaucoup de bonnes équipes là, dans l'association de l'Est. Ça ne sera vraiment pas évident de sortir de là. Là.
Non, c'est sûr. Écoute, il va falloir être prêt. Je pense que c'est des séries. Toutes les matchs qu'on joue, c'est des matchs qui sont serrés, qui sont difficiles à gagner. Puis je pense que on compagne une bonne équipe ou une moins bonne équipe, nous on voit l'autre équipe comme notre adversaire, puis c'est vraiment nous qui dicte la façon dont on veut jouer, puis on laissera pas l'adversaire jouer dans notre tête, puis comme changer notre façon de jouer, là.
On s'entretient avec Zachary Bolduc des Remparts. 44 buts en 56 matchs, mais quoi, 29 dans tes 25 derniers. Y a-t-il quelque chose qui s'est passé à un certain moment? Y a-t-il un déclic ou ben non, c'est tout simplement un concours de circonstances?
Je pense que j'ai quand même eu un petit peu un déclic. Écoute, j'ai pas eu un gros début de saison. Je sais ce que je suis capable de créer sur la glace. Puis en première moitié de saison, en fait, j'étais pas moi-même. Puis je jouais pas le hockey que je suis capable de jouer. Puis quand je suis revenu au jeu après les fights, je me sens plus impliqué physiquement. Je suis près du filet, j'utilise mon lancer. Puis j'ai une bonne connexion aussi avec mes compagnons de trio, là, avec Théo puis PO. Donc c'est vraiment, je pense que c'est tous ces aspects-là qui font que j'ai du succès dernièrement. Là.
Dans le dernier voyage, j'avais eu le retour de Connor Frenette aussi. C'est un gars qui a gagné l'an passé. C'est un gars qui était capitaine de son équipe. Qu'est-ce qu'il apporte exactement?
Ben, il apporte extrêmement de leadership. Je pense que c'est un gars qui sait ce que ça prend. Comme tu l'as dit, il a passé à travers. Puis, c'est un coéquipier exemplaire. C'est un gars qui était blessé, mais il était là pour nous. Il était dans l'entourage de l'équipe. Puis, il s'entraînait. Puis, c'est un gars qui c'est tout simplement un leader pour nous, puis c'est vraiment le fun de le revoir jouer, puis là c'est sûr que ça fait longtemps qu'il a joué, là il faut qu'il reprenne le beat un peu, mais ça va être un élément très très important pour nous pour la suite, là.
Les Remparts n'ont pas fait beaucoup de transactions dans la période des fêtes. C'est peut-être à quel point, c'est sûr qu'il y avait eu ton acquisition à toi là, l'été dernier, mais c'est à quel point que ce noyau-là est solide. Patrick a confiance, quoi.
Oui, exactement. Écoute, moi, je me suis joint à ça. C'est des gars comme Gaucher, Rochette, Nas, Cournoyer, c'est ce noyau-là qui grandit depuis 2-3 ans à Québec. Puis je me considère privilégié de me joindre à ça. Puis oui, Patrick n'a pas fait beaucoup d'acquisitions, mais je pense qu'on a tous les éléments pour avoir du succès et faire un bon bout de chemin en série, là.
Je sais que tu penses beaucoup à ce qui se passe avec les Remparts en ce moment, puis c'est bien correct, puis c'est la réponse cliché à donner. Mais il va y avoir un championnat du monde junior cet été, puis il va en avoir un autre en décembre. Je ne sais pas jusqu'à quel point c'est des choses que tu as dans la tête en ce moment. Si les Remparts font un bon bout de chemin, vous allez jouer jusqu'au mois de juin, puis là, le tournoi du mois d'août va revenir vite. Avec la saison que tu as, des gars comme toi, comme Joshua Roy, veut pas, ils vont être sûrement considérés à un certain moment. Comment tu vois ça?
Pour moi, c'est pas quelque chose qui est dans ma tête à tous les jours. Je pense que pour moi, c'est comme tu as dit, là, mais pour l'instant, j'étais avec les Remparts. Puis la seule chose que je veux, c'est le succès de mon équipe. Puis si j'ai à être invité pour Team Canada, tant mieux, je vais être super, super heureux. Mais pour l'instant, je suis vraiment avec les Remparts. Puis j'ai l'intention de faire un bon bout de chemin avec ce groupe de joueurs-là.
C'est sûr que pour cet été, là, on a l'intention, je pense, de prioriser les gars qui étaient là à Noël l'an passé. Mais de voir que la Ville de Québec, en plus, a posé sa candidature pour décembre prochain, je vois un sourire un peu sur ton visage. C'est quelque chose, c'est sûr, que vous avez discuté, là, parce que je parlais avec Martin Tremblay là, de l'organisation la semaine dernière, puis il me disait, tu sais, on ne peut pas jurer de rien, mais on a des gars comme Gaucher puis Bolduc qui pourraient faire partie de l'équipe à Noël l'an prochain. Puis de jouer ça à Québec, ça serait extraordinaire.
Hein? Ah, c'est vraiment, écoute... Québec, c'est une très belle ville de hockey. Les partisans sont incroyables. Les installations du Centre Vidéotron, c'est tout simplement c'est fou. Puis là, ils veulent joindre ça aussi avec Trois-Rivières, de où que je viens. Donc, ouais. c'est deux belles arenas. Puis on va espérer que Hockey Canada prenne la décision qu'on espère. Mais sinon. C'est pas plus grave que ça. Là. Ça sera à Halifax ou à Moncton ou des places comme ça. Là.
Presque 3 ans de fait dans ton parcours junior. Je sais qu'il y a eu des embûches, des blessures, transactions, la COVID puis tout ça. Est-ce que tu es toujours en paix avec la décision que tu as prise à un certain moment de choisir la LHJMQ?
Ouais, très heureux. Écoute, j'ai passé 2 très belles années à Rimouski, très bien traité. Privilégieux de jouer dans une organisation comme celle-là. Puis maintenant, de jouer pour les Remparts, c'est tout simplement. C'est pas un grand changement. C'est 2 organisations de première classe. Puis je me considère vraiment privilégié de pouvoir jouer pour ces deux belles grandes organisations-là.
Les appréhensions que tu avais ont été finalement. C'était pas ça. Dans le fond, le produit de la LHJMQ a rempli tes attentes?
Oui, assurément. Écoute, tant au niveau scolaire que l'encadrement scolaire ou sur l'aide-là, je pense que tout est vraiment numéro 1. Puis je pense qu'au cours des dernières années, la LHJMQ a vraiment fait des évolutions au niveau de la scolarité puis de l'importance de l'école. Puis je pense que c'est vraiment formidable, puis j'en suis vraiment reconnaissant, puis c'est pour tous les autres gars aussi. Là.
Est-ce que tu as beaucoup de contacts avec les Blues de Saint-Louis par le temps qui court?
Quand même régulièrement, oui. Je te dirais peut-être une fois par semaine, je reçois un appel ou un petit texto. On s'échange si j'ai des blessures, comment ça a été. J'ai quand même des contacts réguliers avec eux, puis c'est le fun de savoir qu'ils sont là et que je suis encadré de ce côté-là aussi.
Zachary, bonne fin de saison. Bonne chance pour le championnat de la saison régulière. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de discuter avec nous.
Merci à toi.
Alors voilà donc l'excellent Zachary Bolduc des Remparts de Québec, un des joueurs là, les plus hot dans les dernières semaines dans le circuit. 29 buts à ses 25 derniers matchs. D'une façon générale, comme je le disais dans l'entrevue, il a 44 buts au total. Il vient au 6e rang de la colonne des pointeurs du circuit avec 84 points. Parmi les autres courses qu'on surveille dans la LHJMQ, il y a celle qui implique Rouyn-Noranda, Chicoutimi, Baie-Comeau et Victoriaville. Parmi ces 4 équipes, il y en a une qui ne participera pas aux séries. Je pense que Moncton avec 57 points, Val-d'Or avec 55 points, là, ont suffisamment de points au classement présentement là, pour... Non pas le X mathématique qui confirme leur présence en série, mais c'est tout comme. Rouyn-Noranda, 51 points. Chicoutimi, 51. Baie-Comeau, 50. Et Victo, 47. Ça va probablement se jouer dans ces 4 équipes. Hier, il y avait un gros match. Chicoutimi qui était de passage à Victoriaville. Et Chicoutimi est allé chercher une victoire de 3-1 contre les Tigres. pour donner justement un peu d'air. Les Huskies de Rouyn-Noranda ont gagné deux matchs contre les Foreurs de Val-d'Or cette semaine, 5-2 et 7-0. Alors ça les a rapprochés à 4 points de Val-d'Or, mais ça les a surtout éloignés de 4 points de Victoriaville. Ce qui est assez intéressant dans la lutte avec ces quatre formations-là, Rouyn, Chicoutimi, Baie-Comeau et Victoriaville, c'est qu'il y a beaucoup de matchs entre eux d'ici la fin de la saison. Chicoutimi va affronter notamment deux fois Baie-Comeau, trois fois Rouyn-Noranda. Victoriaville a des matchs également de prévus contre ces rivaux-là. Alors que le Cap-Breton est virtuellement éliminé, pas encore mathématiquement, mais ça ne saurait tarder. La prochaine victoire de Baie-Comeau au 16e rang ou défaite du Cap-Breton va confirmer l'élimination des Eagles dans les séries éliminatoires. Donc, j'ai décidé de faire un brin de jasette aujourd'hui avec Yannick Jean, entraîneur-chef et directeur général des Saguenay-Chicoutimi. L'équipe est rentrée tard hier au Saguenay après cette victoire en après-midi à Victoriaville. Et on a discuté avec lui notamment de la course aux séries éliminatoires, de la relance des Saguenayens et quelques autres sujets, notamment le fameux calendrier qui est certains pointent du doigt, qui était peut-être un peu trop exigeant pour les joueurs depuis la reprise des activités. Alors voilà cet entretien avec Yannick Jean.
Yannick, premièrement, vous revenez d'une séquence de deux matchs en trois jours contre les Tigres de Victoriaville. Vous avez réussi à reprendre les deux points perdus chez vous à la maison. C'était un gros match hier, qu'on le veuille ou non, pour la course aux séries. Ça vous donne un petit peu plus de gaz, comme on dit, pour tenter de se classer pour le tournoi printanier.
Oui, c'est certain que on n'en parle pas, mais les joueurs, ils le ressentent, les joueurs, ils le voient. Ils ne sont pas coco, ils regardent le classement comme tout le monde, puis ils se le font dire également. Donc, je pense que oui, pour eux, à la fin du match hier, on les sentait soulagés. Je sentais que c'était une grosse victoire.
Il vous reste 9 matchs à jouer, vous en avez 5 contre des rivaux directs. Si jamais vous n'arrivez pas à vous classer, je pense que vous ne pouvez pas regarder ailleurs que dans votre propre vestiaire. C'est rare qu'on voit ça, une fin de saison où vous avez 3 matchs encore contre Rouyn-Noranda, 2 contre Baie-Comeau, puis je vais même ajouter 3 contre Val-d'Or qui ne sont quand même pas si loin que ça non plus. Donc, vous avez votre sort entre vos mains.
Oui, c'est un très bon point. Puis, on a eu beaucoup de blessés dans les dernières semaines. On est en santé au moment où on se parle, donc c'est toujours de bon augure dans l'hockey junior quand tu as tous tes outils à l'intérieur de ton équipe. Mais on est les seuls responsables de notre destinée dans ces 3 semaines-là qui nous restent.
Est-ce que tu savais qu'en faisant les transactions que vous avez faites, ce serait quelque chose qui serait possible de se retrouver dans cette situation-là où tu te disais « je pense qu'on va être correct, qu'on devrait être en mesure de se qualifier sans problème »
Non, en aucun temps, on était convaincus qu'on ferait les séries éliminatoires. On a échangé des joueurs l'an dernier au repêchage. On savait que ça serait une saison difficile où est-ce qu'on devrait rebâtir. On a surpris un peu tout le monde en première moitié de saison. On a rééchangé 3 joueurs à la date limite des transactions. Puis on a dit on se croise les doigts. On y va avec nos jeunes, on travaille avec eux pour leur développement, puis ça nous mènera où est-ce que ça nous mènera. Mais on a eu du gros leadership de la part de nos 20 ans, les Pèlerins, les Nice, les Rouleaux, qui ont fait en sorte qu'on a été capable de se garder la tête au-dessus de l'eau depuis même les fêtes.
On a beaucoup parlé, Yannick, puis ça fait longtemps que tu es dans la Ligue, de la difficulté du calendrier depuis la reprise des activités. On joue plus de matchs, puis je sais que c'est tout le monde qui est dans le même bateau, puis ça a été critiqué de certains points, mais est-ce que pour une équipe qui est en reconstruction, c'est pas encore plus difficile de vivre ça?
Ben, c'est plus difficile parce que lorsque tu as un élément clé qui est blessé, ben, il va rater beaucoup de matchs. Ouais. Et s'il est blessé un mois, il va manquer automatiquement 12 à 15 rencontres. Donc, ce joueur-là te manque pour plusieurs rencontres, puis tu n'as pas nécessairement beaucoup de joueurs de qualité comme ça à l'intérieur de ton équipe lorsque tu es un club en reconstruction. Donc ça fait en sorte que, oui, c'est plus difficile, mais d'un autre côté, je suis convaincu qu'à long terme, nos 16 ans, nos 17 ans, nos plus jeunes joueurs, ils vont avoir acquis un bagage supplémentaire, comment se comporter. Puis c'est un peu un calendrier de séries éliminatoires qu'on vit depuis 6 à 8 semaines, puis il faut voir le beau côté des choses quand même.
Yannick, si tu compares la situation des Saguenayens, là, vous avez reparti la roue là, pour le prochain cycle, si on veut, versus la dernière fois que vous l'aviez reparti, où vous aviez repêché Hendrix Lapierre, vous aviez repêché Théo Rochette. On sentait, selon moi, en tout cas, qu'on s'en allait vraiment là, avec des belles années. On sait ce qui est arrivé, malheureusement. Là, vous avez été affecté là, comme d'autres équipes par la COVID où vous aviez une bonne formation. Quand tu regardes ton noyau de jeunes en ce moment versus peut-être...
Bien, je pense qu'on est en avance à cause de notre banque de choix repêchage. On a 6 choix dans les 25-26 premiers cette année, dont 4 choix de première ronde. On a 2 choix de première ronde l'an prochain, 2 choix de première ronde encore en 2024 qu'on a réussi à mettre en banque. Donc, on n'avait pas autant d'éléments clés, des choix de première ronde, deuxième ronde. Pour moi, c'est des éléments clés pour une organisation. On n'en avait pas autant comme que ça lorsqu'on a recommencé. On avait 3 choix de première ronde, on n'avait pas de choix de deuxième ronde. Donc, je pense que ça va peut-être être plus facile. Puis, on a une meilleure banque de joueurs de 17 ans qui ont acquis un bagage avec nous qu'on avait la dernière fois. C'était difficile pour nous d'appuyer les Lapierre dans ce temps-là, ces joueurs-là, avec des joueurs qui étaient déjà dans notre équipe. Pour la plupart, c'était des joueurs qui partaient l'année d'après. Donc, je considère qu'on est un petit peu en avance là, d'où on était.
Quand tu regardes la QV qui s'en vient, vous avez beaucoup de choix. Est-ce qu'on se dit que... Moi, je parle avec des recruteurs, puis il ne semble pas d'avoir d'unanimité. On me dit tous qu'il y a beaucoup de bons joueurs, mais il n'y a peut-être pas d'unanimité là, sur les premiers choix. Qu'est-ce que tu en penses?
Oui, je suis vraiment, vraiment d'accord. Bien malin serait... celui qui est capable de nous dire qui va être le premier choix, là, même si on est à 3 mois là, du repêchage. Je pense que c'est une question d'évaluation, une question de voir le développement, d'analyser le développement de tous et chacun qui va dicter l'allure de ce repêchage-là. Mais tu sais, il y a des bons joueurs, mais il n'y a pas nécessairement un joueur en particulier qui se démarque du lot.
Le post-COVID se passe comment avec les Sags au niveau des partisans, puis tout ça, puis c'est veut pas, on attire toujours plus quand on est dans le haut du classement que quand on est dans le bas. Est-ce que tu sens là, une certaine quand même fébrilité? Là?
On sent des matchs, comme on dit, des matchs importants, ou des matchs qui étaient déjà planifiés sur le calendrier. Les détenteurs de billets de saison, ils savent que la partie, elle se déroule là. Il y a d'autres qu'on est allé chercher des foules de 3000, 3005 à quelques reprises. Il y a d'autres matchs, par contre, que c'est peut-être un petit peu plus difficile, des matchs sur semaine qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui savent que cette rencontre-là a été replacée dans le calendrier ou pour peut-être là, quelques raisons que ce soit. Mais en tout cas, c'est bon pour les joueurs, c'est bon pour tout le monde de revoir des spectateurs. Là. Ça n'a vraiment pas de prix.
Avant de te laisser aller, je veux avoir tes commentaires. Est-ce que tu es un peu surpris de voir comment Dawson Mercer fait ça dans la Ligue nationale cette année?
Ben, tu sais, surpris, oui. Mais avec lui, on ne peut jamais surprendre. Tu sais, un individu de qualité comme ça, tout le monde veut travailler avec lui. Il est tellement ouvert d'esprit. Il veut tellement. Il agissait déjà comme un professionnel chez les juniors. Je pense que c'est un exemple incroyable pour les joueurs qui jouent dans notre ligue, de l'avoir côtoyé, de voir qu'avec une attitude comme ça, avec une personnalité comme ça, on se rend rapidement là, au prochain niveau.
Parce que qui joue dans la Ligue nationale cette année, je pense qu'on pouvait peut-être s'y attendre, mais qui connaît ses succès et qui n'a pas eu du tout à aller dans la Ligue américaine, puis tout ça, c'est quand même aussi... Oui, il a joué pour les Voltigeurs, mais il a fini chez vous quand même. Vous en gardez une fierté, vous autres aussi. Là.
Oui, définitivement. Puis, tu sais, il y en a qui me disent, oh, il est à la bonne place au bon moment. Oui, mais il fait en sorte de profiter de cette occasion-là. À 18 ans, ça a été la même histoire avec l'équipe Canada Junior. Personne aurait gagé sur sa présence à ce tournoi-là. Il l'a fait comme 13e attaquant, a terminé dans les 12 premiers quand même, puis il a été un bon joueur. T'sais, à toutes les fois que Dawson s'est vu donner une opportunité, il a saisi au lieu de se demander pourquoi il n'y a pas les meilleures choses qui m'arrivent, c'est organisé pour faire le plus possible avec ces opportunités-là.
Yannick, bonne chance pour la fin de la saison. Les Sags n'ont pas raté les séries depuis l'an 2000. J'imagine que tu ne veux pas accrocher ça à ton tableau cette année. Là. Mais vous êtes quand même en bonne position en ce moment avec quoi 4 points d'avance sur Victoriaville.
Oui, mais puis comme j'ai dit, on les joue une à la fois, puis on verra où est-ce que ça nous mène. On veut avoir une attitude, la même attitude qu'on a.
À Nouveau Info, c'est important pour nous d'aller au-delà de l'info. Et ça commence à 17h par un regard en profondeur de l'actualité avec Marie-Christine Bergeron. À 22h, on ajoute du mordant à votre bulletin d'information. Les débatteurs se joignent à Michel Bérer pour analyser, commenter et débattre en direct des sujets de nos reportages. Et à 22h30, on fait place au grand débat de la journée avec les débatteurs de Nouveau. Faites comme nous. Allez au-delà de l'info sur Nouveau et Nouveau.info.
Lors de nos matchs, c'est-à-dire peu importe contre qui qu'on joue, on fonce tête première, on regarde le pointage à la fin de la rencontre. C'est exactement l'attitude qu'on va avoir par rapport là, justement au calendrier ou au classement là, d'ici la fin de la saison.
Merci beaucoup, Yannick, d'avoir pris le temps.
Merci.
Alors voilà donc, directeur général et entraîneur-chef des Saguenay-Chicoutimi, Yannick Jean, son équipe qui est impliquée dans les séries, dans la course aux séries éliminatoires, comme je le mentionnais dans l'entrevue, n'a pas raté les séries depuis la saison 99-2000, 2000-2001. Ça fait quand même un bon moment là, que les Sags participent aux séries de façon consécutive. Parmi les choses dont je voulais revenir cette semaine, d'abord vendredi dernier à Rimouski, on a honoré Doris Labonté, ancien entraîneur-chef et directeur général de l'Océanique, qui était à la tête de la formation de Rimouski en 99-2000, justement, lorsque cette équipe a remporté la Coupe Memorial avec Brad Richards comme grand leader de cette formation. C'est une cérémonie qui devait avoir lieu en mars 2020. Et qu'on avait dû remettre, évidemment, comme la fin de la saison de la LHJMQ en raison de la COVID. Au cours des derniers mois, l'ami Doris a combattu le cancer. Et il est encore à combattre le cancer, mais il était là vendredi soir. J'ai vu des images là, sur les médias sociaux de cette cérémonie qui s'est étirée et qui a rendu hommage à Doris Labonté avant le match contre les Cataractes de Shawinigan. Alors, Doris, j'espère que tu as apprécié. Tu fais maintenant partie des immortels de l'Océanique. C'était un personnage qui a marqué la Ligue de hockey junior majeur du Québec. On l'avait reçu d'ailleurs ici à Sur la glace juste avant la cérémonie. En fait, juste avant, lors de l'annonce de la cérémonie de 2020, on avait fait le tour un peu de sa carrière et je reviens souvent avec cette histoire-là, mais c'est beaucoup grâce à Doris. Si maintenant, il y a une journée de congé entre le match de demi-finale et la grande finale de la Coupe Memorial en 2005, il s'était tellement insurgé du fait que depuis plusieurs années, l'équipe qui passait directement en finale gagnait automatiquement la Coupe Memorial. Puis lui disait, ben, c'est pas compliqué, l'équipe se repose et nous, l'équipe qui gagne la demi-finale, on doit revenir en dedans de 24 heures et jouer contre les finalistes qui se reposent. Et évidemment, Rimouski avait subi une défaite contre les Knights de London avec Sidney Crosby en 2005 et pour Doris Labonté, ça ne faisait aucun sens. Et depuis 2006 maintenant, ben, il y a une journée de congé entre le match de demi-finale et la grande finale. Et on voit d'ailleurs que depuis 2006, au cours des 15 années là, où à peu près qu'il y a eu la Coupe Memorial, bien, c'est beaucoup plus partagé. Là. Ce n'est plus automatiquement l'équipe qui passe en grande finale qui remporte le gros trophée. Vendredi prochain, je serai là à Drummondville. Vendredi le 15 avril, on va retirer le chandail numéro 7 de Sean Couturier. L'Organisation des Voltigeurs a confirmé la nouvelle au cours des dernières semaines sur les médias sociaux. C'est une cérémonie qui, au départ, moi, en tout cas, j'avais appris que ça devait avoir lieu en décembre. Évidemment, avec les problèmes de santé de Sean, ça a été remis. Mais là, ça va se faire vendredi soir, donc au centre Marcel Dionne, avant le match contre le Phoenix de Sherbrooke. Les Voltigeurs vont honorer Sean Couturier, qui a été de la dernière équipe championne des Voltigeurs en 2008-2009, dirigée par Guy Boucher. Les Voltigeurs qui avaient gagné la finale de la Coupe du Président en 7 matchs contre les Cataractes de Shawinigan, une finale qui avait été spectaculaire entre les deux rivaux là, du centre du Québec. Par la suite, ben, Drummondville s'était incliné en demi-finale du tournoi de la Coupe Memorial présenté à Rimouski. Sean Couturier, l'année suivante, a remporté le championnat des pointeurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Et rappelons-nous qu'il a fait le saut prématurément dans la Ligue nationale à l'âge de 19 ans. Alors, on va honorer Sean Couturier vendredi soir à Drummondville. Lui aussi, son chandail numéro 7 va aller rejoindre ceux d'autres grandes vedettes de l'histoire des Voltigeurs. Il y en a quand même beaucoup à Drummondville, les Yann Laperrière, Daniel Brière, Denis Gauthier, Steve Duchesne, Guillaume Latendresse, Derek Brassard, Steve Chartrand. J'en oublie, là, je dis ça de mémoire, là, mais René Corbett, il y a beaucoup de joueurs qui ont été déjà honorés à Drummondville et Sean Couturier va faire partie de ce groupe. Donc, à surveiller donc, la poursuite du calendrier cette semaine dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Ça se poursuit demain, évidemment. Et comme je le disais, il reste 3 semaines au calendrier. La Ligue de développement M18 3A, qu'on appelait évidemment la Ligue Midget 3 auparavant, est rendue à l'étape presque de sa grande finale. En fait, il y a déjà une équipe finaliste qui est connue. Les Chevaliers de Lévis ont balayé une 3e série consécutive, 3-5 par 3-0. Après avoir battu Jonquière et Saint-Hyacinthe au cours des 2 premières rondes, les Chevaliers de Lévis ont fait subir le même sort au Phoenix du Collège Esther Blondin. C'est donc dire que les Chevaliers de Lévis ont maintenant gagné leurs 21 derniers matchs puisqu'ils avaient gagné les 12 derniers matchs de la saison régulière et là, 9 en série. Les Chevaliers de Lévis attendent maintenant l'autre équipe finaliste. Les Cantonniers de Magog mènent 2-0 contre le Rousseau Royal de Laval-Montréal et le match numéro 3 de cette série 3-5 a lieu ce soir à l'Arena Fleury, là, à Montréal-Nord. Donc, si Magog devait l'emporter ce soir, ou en tout cas devait emporter la série, on aurait une finale entre les deux meilleures équipes de la Ligue développement M18 de 3A. Une finale 4-7 qui pourrait bien s'amorcer samedi prochain à Lévis. Donc, ce sera à surveiller dans cette ligue qui va conduire un champion très prochainement pour la première fois en 3 ans. On sait que la saison 2020 avait été arrêtée en raison de la COVID et que l'an passé, il n'y a pas eu de saison dans la Ligue Midget 3. Alors, et le gagnant de cette finale entre Lévis, Magog et ou Montréal, Laval-Montréal, ben, va représenter le Québec à la Coupe TELUS qui aura lieu à Calgary à la mi-mai. La finale de la Coupe TELUS est prévue le 22 mai, un match qui sera présenté sur les ondes de RDS. Ça a été la fin en fin de semaine aussi du championnat national des universités américaines, le Frozen Four. Les Pioneers de l'Université Denver l'ont emporté 5-1 en grande finale contre les Mavericks de Minnesota State. Donc, Denver est champion national américain. C'est une équipe qui alignait, entre autres, un espoir du Canadien, Brett Stapley, qui a été choisi en 7e ronde en 2018 et dont la carrière universitaire est terminée. Stapley qui a récolté 43 points en 41 matchs cette saison. On a essayé de l'avoir il y a quelques semaines à la balado, ça n'a pas été possible. Peut-être qu'on pourra lui parler d'ici la fin de notre saison à nous. Stapley s'alignait notamment avec Bobby Brink, qui lui a déjà signé son premier contrat professionnel avec les Flyers de Philadelphie. Et il ne faut pas oublier que dans cette fin de semaine de la NCAA, ben les Wolverines de Michigan se sont inclinés, en demi-finale jeudi soir. Michigan qui était largement favori avec Owen Power, Matt Beniers et compagnie. Michigan qui a perdu en prolongation contre Denver, justement. Alors, Denver qui s'est qualifié pour la finale. Et il y a eu plusieurs signatures de contrat de joueurs qui ont participé au Frozen Four en fin de semaine. Owen Power a signé son premier contrat avec Buffalo. Matt Beniers avec Seattle. Je vous parlais de Bobby Brink avec Philadelphie. Ken Johnson avec Columbus. Nathan Smith avec le Minnesota. Blake McLaughlin avec Anaheim. Alors, ce sont tous des joueurs qui ont soit terminé leur carrière universitaire en allant jusqu'au bout ou ont décidé de laisser l'université après 1, 2 ou 3 ans et sont maintenant devenus des joueurs professionnels. Avant de vous laisser, je veux souligner, on n'en parle pas souvent, mais ça reste que c'est toujours quelque chose d'important pour la Ligue de hockey junior majeur du Québec lorsqu'on présente les finalistes du trophée Marcel Robert qui est remis aux joueurs étudiants par excellence. Vous savez, la Ligue de hockey junior majeur du Québec, on dit souvent que c'est une école de vie. Et c'est vrai, on force les joueurs à aller à l'école. On donne des bourses quand même très intéressantes, autant pour ceux qui peuvent devenir des joueurs professionnels, qui gagnent le trophée ou qui sont candidats au trophée Marcel Robert, que d'autres qui vont justement prendre la voie des universités et qui pourront être soutenus par la Ligue de hockey junior majeur du Québec pendant toute leur carrière universitaire. Il y a un comité de sélection là, qui est composé de 5 membres, Sébastien Fife, qui est le directeur général de l'Alliance Sport-Études, qui est le président du comité de sélection. Simon Gagné, un ancien joueur de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Michael Alancette, auteur et journaliste au quotidien Le Soleil. Nicolas Terrien, ancien récipiendaire du trophée Marcel Robert, qui est un conseiller en placement maintenant de carrière. Et Jude Vallée, un ancien entraîneur du circuit qui dirige maintenant les Aigles Bleus de l'Université de Moncton. Alors, on a fait connaître les 18 finalistes. Je vais vous les nommer. Et parmi ceux-là, ben, il y en a un qui va se mériter le trophée Marcel Robert à la fin de la saison. Alors, le Titan de Caddy Batters, Ben Allison, du Drakkar de Bécomo, Jacob Gaucher, de l'Armada, Simon Lavigne, des Eagles du Cap-Breton, Logan Camp, des Islanders de Charlottetown, Luca Cormier, des Saguenay-Chicoutimi, William Rouleau, des Voltigeurs de Drummondville, Alexis Morin, des Olympiques de Gatineau, Tristan Luneau. Alors, vous voyez, on peut concilier les études et être quand même un espoir de premier plan de la Ligue nationale. Des Moussets d'Halifax, Elliott Desnoyers, des Wildcats de Moncton, Vincent Filion, des Remparts de Québec, Charles Bruchon, de l'Océanique de Rimouski, Jacob Mathieu, des Huskies de Rouyn-Noranda, Mathieu Gagnon, des Sea Dogs de Saint-Jean, William Villeneuve, des Cataractes de Shawinigan, Olivier Nadeau, du Phoenix de Sherbrooke, Julien Anctil, des Foreurs de Val-d'Or, Thomas Pelletier et des Tigres de Victoriaville, Maxime Pellerin. Donc ça, ce sont les 18 finalistes. Félicitations. Déjà, c'est une étape importante. Vous êtes le candidat de votre équipe. Et maintenant, ben, on sélectionnera parmi ces 18 finalistes le gagnant du trophée Marcel Robert, remis à l'étudiant par excellence de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Alors, ça fait pas mal le tour de ce qu'on avait pour vous cette semaine. On surveille la suite pour le Rocket, comme on le disait. 4 matchs cette semaine, tous des matchs à l'étranger. Les Lions de Trois-Rivières également qui sont tout près dans la ECHL, là, j'en ai pas parlé, là, mais ils sont tout près d'une qualification en série là, qui vont eux aussi là, terminer leur saison à la maison puisque les 4 derniers matchs du calendrier ont lieu cette semaine. La saison régulière qui va prendre fin là, samedi prochain pour les Lions. Alors, il y a un match contre Adirondack et 3 matchs contre Worcester. Et il y a de bonnes chances que les Lions participent aux séries éliminatoires à leur première saison dans la ECHL. On surveille également ce qui se passe dans la Ligue Midget 3A. La semaine prochaine, parmi les invités, on aura notamment Mathieu Vachon qui a écrit un livre sur le hockey junior. Alors, on va le recevoir pour parler de son livre qui, je pense, sort dans les librairies le 20 avril prochain, donc mercredi. Pas qui vient, mais mercredi de l'autre semaine. Et on va revenir là-dessus aussi. Alors voilà, c'est ce qu'on avait pour vous cette semaine. Remerciements habituels à la technique Félix Payet, à la coordination Luc Dansereau, à la recherche Christian Daou. Mes invités, Raphaël Harvey-Pinard du Rocket de Laval, Zachary Bolduc des Remparts de Québec et Yannick Jean des Saguenay-Chicoutimi. On se donne rendez-vous la semaine prochaine.